Studio Tamani, voici les informations en français.
Il est 17h à Sikasso. Auditeurs de Studio Tamani, bonsoir, c'est l'heure de votre journal dont voici les titres. La journée de la courtoisie sur la route a été célébrée hier. Organisée par l'Agence nationale de la sécurité routière, elle a été marquée par une sensibilisation des usagers contre les mauvais comportements sur la route. Ouverture du Forum économique international Mali-Russie ce mardi 25 mars 2025 à Bamako. Un espace pour les deux pays de poser les bases de la coopération économique entre les entreprises russes et celles maliennes. Notre dossier de la semaine est consacré aux dons aux personnes démunies. Si certains donateurs préfèrent rester anonymes, d'autres demandent à filmer les bénéficiaires. Le développement de ce titre, c'est tout de suite avec Idrissa Sako. Gagné Kanté assure la technique. Encore une fois, bonsoir, je le disais dans les titres, en 2023, près de 1230 accidents ont été recensés. Face à ces chiffres alarmants, le ministère des Transports et des Infrastructures, par le biais de l'ANASER, a célébré la journée de la courtoisie sur la route. L'objectif était de sensibiliser les usagers. Les activités se sont déroulées le 24 mars, déclarée journée nationale de la courtoisie sur la route. Lale Tangara, reportage.
Selon l'Agence nationale de la sécurité routière ANASER, l'agressivité sur la route a augmenté, telles que les injures et les stationnements sur la chaussée sont souvent à l'origine de conflits et d'accidents de la circulation. L'ANASER estime que ces gestes désobligeants causent 85% des accidents de la route au Mali. Issa Bakili Traoré, directeur général adjoint à l'ANASER.
Le fait, ce n'est pas parfois aussi adhérer, c'est de faire en sorte qu'on puisse vraiment les inculquer cette notion de courtoisie afin qu'eux-mêmes puissent servir d'exemple et de modèles pour les autres usagers de la route.
Les usagers de Bamako approuvent cette initiative. Ils estiment qu'il est important de sensibiliser les usagers à la courtoisie sur la route.
Puisque je me suis déjà engagé, mieux vaut me laisser passer pour ne pas occasionner un accident. Soyons courtois et tolérants.
Dans la ville, il y a beaucoup d'usagers sur la route. Je pense qu'on doit se céder les passages dans le plus grand respect.
Le port de casque est vital.
Le thème de cette 14e édition est la protection des piétons sur la chaussée est un geste citoyen. Ces campagnes de sensibilisation ont également eu lieu dans les régions de Kayi, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti.
Et réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook et notre compte X. Autre titre, les travaux du Forum économique international Mali-Russie se sont déroulés ce mardi 25 mars 2025 à Bamako. L'objectif de cette rencontre est de poser les bases de la coopération économique entre les entreprises russes et celles maliennes en vue d'une opportunité d'affaires. L'initiative est de l'association La Perspective Sahélienne en collaboration avec l'agence de presse russe African Initiative. Des panels sur l'agro-industrie, l'énergie ont été animés par des experts, nous dit Moussa Malé Sissoukou.
L'association La Perspective Sahélienne affirme que le Mali et la Russie partagent de longues histoires de relations diplomatiques et de coopération. Son président Mamadou Ba exprime la nécessité de renforcer ces liens pour faire face aux défis dans un contexte mondial en pleine mutation.
Nous avons devant nous une opportunité de promouvoir les échanges commerciaux, de développer les partenariats technologiques et de renforcer la coopération dans les secteurs tels que l'énergie, les mines, l'agriculture.
Ivan Elinski, secrétaire de presse à l'ambassade de Russie au Mali, déclare que le partenariat russo-malien est basé sur des relations solides et durables.
La rencontre d'aujourd'hui est une opportunité d'ouvrir de nouveaux horizons pour notre collaboration. Nous sommes convaincus que notre partenariat continuera de se renforcer, contribuant ainsi au développement économique de nos pays.
Le représentant du CNT, présent au forum, regrette que la coopération économique entre Bamako et Moscou peine à démarrer à hauteur des souhaits. L'événement a été suivi à Moscou en visioconférence par une dizaine d'entrepreneurs russes qui ont échangé avec les opérateurs économiques maliens.
Et maintenant, cette précision. Contrairement à ce qui a été annoncé ce matin, le rapport sur des incidents sécuritaires n'était pas d'OCHA, mais d'Insecurity Insight, qui a publié le 20 mars dernier avoir recensé 126 incidents sécuritaires liés à l'alimentation au Mali. C'était entre janvier 2024 et mars 2025. Ces incidents comprennent des vols de bétail, des attaques sur les marchés et des agressions contre des voyageurs. Ces violences survenues dans le nord et le centre du pays ont contraint des milliers de personnes à se déplacer. Moussa Agmahaha revient sur ce rapport.
Les documents indiquent que le vol de bétail, notamment de bovins, d'ovins et de caprins, est la forme de violence liée à l'alimentation la plus fréquemment signalée. La majorité des incidents ont été recensés dans les régions de Mopti et Gao. D'après la note, la majorité des attaques à Mopti ont été attribuées au groupe armé affilié au Jinim, tandis qu'à Gao, l'État islamique au Grand Sahara, EIGS, a été l'acteur le plus fréquemment cité. La note d'Insecurity Insight mentionne qu'en novembre 2024, des éléments du Jinim ont bloqué la ville de Léré dans la région de Tombouctou après avoir détruit les ponts reliant Léré à Niafinké. Deux mois plus tard, les habitants faisaient état de pénurie des denrées alimentaires en raison du maintien du blocus. En plus des pillages de bétail, des attaques armées régulières ont visé les marchés, affectant directement les personnes s'y rendant ou en revenant.
Autre titre, le peuple malien célèbre demain le 34e anniversaire de la révolution de mars 1991 qui a vu le peuple se soulever contre le régime du général Moussa Traoré. 34 ans après l'instauration de la démocratie, les attentes peinent à se combler selon Boulan Barrou. Il est membre du bureau exécutif du CNID. Il est au micro de notre reporter Cheikh Amadou Diarra.
Les acquis sont énormes sur le plan social, éducatif, sur le plan des infrastructures, sur le plan des droits humains. Aujourd'hui, toutes les crises que nous connaissons, pour moi, prennent leur source dans la mauvaise gouvernance. La bonne gouvernance n'a pas été au rendez-vous du système démocratique, ce qui fait que beaucoup d'attentes n'ont pas été comblées. La gouvernance en tant que telle n'est pas mise en cause, mais les acteurs qui sont chargés d'allumer le système démocratique dans un État ont failli. Faiblesse, ce n'est pas la démocratie en tant que système qui est mise en cause. Faiblesse aussi repose aussi sur un système judiciaire pour renforcer le système judiciaire.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali URTEL, financé par l'Union européenne, les gouvernements du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
Et maintenant, place au dossier de la semaine. Au Mali, les dons aux personnes démunies sont courants, qu'ils viennent d'individus ou d'organisations. Certains donateurs préfèrent rester anonymes, tandis que d'autres demandent à filmer les bénéficiaires. Il arrive que ces images soient partagées sur les réseaux sociaux montrant les familles recevant de l'aide. Cette pratique suscite la désapprobation des religieux et des citoyens maliens. Ils considèrent que l'aide devrait être apportée naturellement, sans mise en scène ni exposition publique. Plus de détails avec Aïssata Diarra et le concours de nos correspondants locaux.
De nombreux Maliens apprécient les gestes des données aux personnes démunies. C'est pour eux un moyen d'aider ces personnes à surmonter certaines difficultés de la vie. Cependant, le fait de filmer ces dons déplaît à beaucoup.
Je suis contre ça parce qu'un don doit être donné de façon secrète.
Les gens ont besoin d'aide. Les exposer aussi publiquement pour quelques billets ou quelques matériels, la personne pourrait se sentir mal à l'aise.
Quant à moi, c'est pas du tout bon. Mais d'autres disent que ça permet à quelqu'un d'autre aussi de faire du bien aussi.
Le sociologue Obrema Elidiko estime que filmer les bénéficiaires d'un don pour motiver d'autres à faire le bien est acceptable. Toutefois, il déplore que les dons ne soient pas faits dans cet esprit. Actuellement, les bénéficiaires reçoivent ces aides d'une manière qui ne préserve pas leur dignité.
Il y a qui montrent leurs dons pour rappeler aux autres l'importance de partager. Dans ce cas-là, oui, cela permettrait de galvaniser les autres. Habituellement, c'est un acte qui intervient dans la discrétion. De plus en plus, nous sommes dans une société où les gens aiment à la fois se faire voir, mais aussi prendre un peu la dignité de ceux qui sont des bénéficiaires.
Les donateurs perçoivent différemment le fait de filmer les bénéficiaires recevant un don. Ibrahima Madembassi, chef de projet de l'ONG Stop Sahel à Kaya, avance plusieurs explications possibles à ce phénomène.
Ça entre dans le cadre de la visibilité des actions du projet et de la structure. Et ensuite, ça sert de preuve aussi par rapport aux donateurs et par rapport aux bénéficiaires. Tout ce qu'on peut filmer et projeter pour que les citoyens l'en puissent voir, c'est ce qu'on a remis et c'est ce qui a été dit publiquement.
Que dit la religion concernant l'aide aux personnes dans le besoin? Selon le pasteur Tadi Diarra, le christianisme encourage à soutenir discrètement les plus démunis.
La Bible nous encourage à ouvrir notre cœur aux pauvres. Comment faudra-t-il le faire? Matthieu chapitre 6, verset 1 à 4. Gardez-vous bien de faire des dons devant les hommes pour qu'ils vous regardent. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père céleste. Donc, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite.
La religion musulmane suit une logique similaire selon les Uridis. Ils estiment que toute personne financièrement stable devrait aider les nécessités sans compromettre leur dignité.
Voilà, c'est tout pour ce soir. Juste après le magazine qui va suivre, vous pouvez écouter votre émission Le Grand Dialogue avec Imrana Kilou Maïga. Imrana, bonsoir. De quoi allons-nous débattre ce soir?
Bonsoir Idrissa Sako. Ce soir, nous allons parler de l'urbanisation au Mali. Quelles solutions aux constructions anarchiques sur les cours d'eau? Et nous serons avec Mahamadou Weleghem, directeur national de l'urbanisme et de l'habitat. Abdelwahab Diakité, président de l'ASCOMA, association des consommateurs du Mali. Et Ibrahim Abdrahaman Kunta, ingénieur en planification urbaine, vice-président de l'Ordre des urbanistes du Mali.
Voilà, merci Imrana Kilou Maïga. Le décor est planté. Bonne écoute radiophonique à tous. Et maintenant, le magazine Toutes les femmes du Mali. Il a été constaté qu'un nombre significatif de femmes sont impliquées dans le secteur commercial au Mali. Certaines d'entre elles vont même au-delà des frontières afin de s'approvisionner en marchandises. Mais elles sont confrontées à des clichés qui les caractérisent. Tu es une commerçante, donc tu es une mauvaise épouse. Des préjugés qui exposent ces femmes à de multiples dangers. Femmes commerçantes et préjugées, c'est le thème du magazine Toutes les femmes du Mali présenté par Lale Tangara avec le concours de nos correspondants locaux.
Binta Diarra est une jeune dame commerçante à Kayi. Elle est mariée depuis quelques années. Elle affirme faire face à de nombreux préjugés à cause de son activité. Son entourage estime qu'elle priorise son commerce au détriment de son foyer, donc elle culpabilise.
La commerçante doit affronter de nombreux préjugés. J'en ai personnellement été victime. On m'a reproché que mon activité m'empêchait de gérer mon foyer et de m'occuper de mon mari, ce qui n'a rien à voir avec mon commerce.
Fatmata Koulibaly, alias Fatou Bijou, mène aussi cette activité. Contrairement à Binta, elle a le soutien de sa belle famille et de son conjoint. Son secret, c'est la communication qu'elle a pu instaurer au sein de son couple.
L'éducation est essentielle. Certains hommes empêchent leurs femmes de voyager pour le commerce. Personnellement, mon mari et ma belle famille me soutiennent. Je m'organise pour voyager. Mes belles sœurs s'occupent des enfants et les aident avec leurs devoirs. J'ai récemment passé 3 mois à l'étranger. Concilier le commerce et la vie de famille n'est pas facile, surtout dans notre société.
Certains hommes pensent que ces femmes appuient financièrement leur mari, mais soulignent toutefois que le problème se situe au niveau de l'entretien de la famille. Cependant, d'autres estiment que ces femmes, au lieu de s'occuper du foyer, passent tout leur temps à voyager. Pour eux, cela peut être source de tension.
Ceux qui font vraiment ce commerce-là, souvent, elles viennent en appui vraiment leur mari. Mais le problème demeure vraiment au niveau de la famille.
L'éducation de la famille incombe à la femme. Si le mari sort et que la femme doit aussi sortir, qui s'occupera de la famille? Faire appel à une aide ménagère n'est pas envisageable. La femme ne doit même pas sortir.
Elles sont vulnérables car il y a des hommes qui essayeront toujours de les acheter avec de l'argent, en leur promettant d'augmenter leur fonds de commerce. De plus, il faut garder à l'esprit qu'elle n'appartient pas qu'à toi seul.
Selon des traditionalistes, le commerce contribue beaucoup à l'autonomisation des femmes et c'est salvateur si la praticienne se fixe à certaines limites, dit Salia Daou, traditionnaliste à Yoroso.
La société aura un mauvais œil sur toi. C'est compte tenu même de leur comportement au niveau de ce voyage-là. Une femme qui va quitter ici son foyer pour aller, si elle n'est pas mariée, tu peux être exposé à beaucoup de choses. N'importe quel homme peut t'aborder. Tu peux être victime d'une agression physique ou bien sexuelle, verbale. Donc, il y a tous les mots auxquels tu es exposé. En tout cas, pour moi, ce n'est pas une bonne chose qu'une femme voyage comme ça, de pays en pays.
Fodié Tandjougoura alerte sur quelques conséquences de cette activité. Le sociologue pense que lorsque la femme exerce une activité génératrice de revenus, elle est toujours pointée du doigt par la société. Et en ce qui concerne le commerce, les femmes sont amenées à côtoyer des clients de tous bords.
Mais lorsque ce commerce est accompagné d'un déplacement à longue distance, eh bien cela pourrait impacter le foyer quand les enfants sont à bas âge, parce que l'essentiel en bas âge de l'éducation repose sur les femmes. Et donc ça peut aussi inciter les parents du mari à reconsidérer sa position, donc à marier une nouvelle femme. Même si votre mari est tout à fait d'accord, le poids de la famille pourrait être un frein, n'est-ce pas, à cette activité.
Certaines femmes commerçantes sont stigmatisées dans la société à cause de leur activité. Des hommes voient en elles des femmes exposées et instables dans le foyer. En dépit de ces difficultés, ces femmes entrepreneurs parviennent à puiser en elles la force nécessaire pour être autonomes.